Jean-Marc Legrand l'a souvent entendu dans la bouche de son ami Louis Humet, aujourd'hui décédé. Là-bas, entre Neuvireuil et Fresnes-lès-Montauban, dans le Pas-de-Calais, armes et munitions s'entassaient dans un dépôt pendant la Première Guerre mondiale. Ces instruments de guerre ont aujourd'hui laissé la place aux labours et aux semences. Dans cette zone, les tracteurs sont partout. Près de 70% de la surface du département est consacrée à l'agriculture. Jean-Marc est trop jeune pour avoir connu l'état du champ de bataille à Neuvireuil. Mais 100 ans plus tard, il fait face aux vestiges de la guerre. Sur ses 200 hectares d'exploitation, il déterre entre 60 et 70 obus par an. Retour en 1918. À la fin de la guerre, la ligne de front n'est plus habitable. Les maisons sont rasées, les routes démolies et les champs remplis de projectiles. L'État évalue alors les coûts de la reconstruction et classe en zone rouge les terres trop meurtries pour être remises en culture. Sur 178 511 hectares à l'échelle nationale, le Pas-de-Calais en compte d'abord 26 109, puis la part est réduite à 484 en 1927. Dans le département, la remise en culture est conduite par l'État, mais est aussi accélérée par le travail des agriculteurs, soucieux de se réapproprier la terre. Dans près de 1600 communes, la tâche est colossale. Rien qu'à Bailleul, dans le Nord, 400 démineurs anglais sont convoqués. Mais malgré ces efforts, aujourd'hui on trouve encore dans ces zones des dizaines d'obus. Selon le biographe Jean-Paul Amat, il n'y a pour autant pas matière à s'inquiéter. Bien sûr que la Première Guerre mondiale a laissé des traces. Il n'y a qu'à baisser les yeux et observer les trous d'obus, explique-t-il. Mais cela n'entraîne aujourd'hui plus de pollution significative. En dehors de certaines situations exceptionnelles, comme celle de la place à gaz, près de Verdun dans la Meuse. Sur les lieux, cette place à gaz est introuvable, malgré les indications d'un agent de l'Office national des forêts. Même les habitants des alentours n'en ont jamais entendu parler. Tobias Bossinger, un toxicologue allemand, s'est attaqué en 2007 à l'analyse de ces sols. Il décrit la zone comme un cercle de 70 mètres de diamètre, avec pour toute végétation une herbe brune, des mousses et des lichens. C'est là que les belligérants ont détruit 200 000 obus chimiques à la fin du conflit. Depuis, il n'y pousse que des plantes ayant développé une grande tolérance à l'arsenic et à certains métaux lourds. Une adaptation nécessaire, puisque les taux d'arsenic dépassent jusqu'à 3200 fois la limite légale fixée aux Pays-Bas, 55 mg par kilo. La France, elle, n'a pas défini de taux réglementaire pour ses composants chimiques. Les moyens nécessaires au nettoyage de cette zone souillée seraient colossaux. Mais Jean-Paul Amat n'a pas tort. Ces espaces sont des exceptions. Il existe en revanche une pollution plus discrète, plus diffuse, qui reste préoccupante. Dans la forêt de Verdun, plantée pour recouvrir des milliers d'hectares ravagés, des munitions enfouies contaminent petit à petit les environs. Une étude de 2004, restée confidentielle, montre que sur un échantillon de 90 foies de sangliers locaux, 11% seraient contaminés à des niveaux de plomb supérieurs à la norme fixée par l'Union européenne. Au sud de la forêt se trouve la crête des Éparges, particulièrement touchée lors des affrontements de 1916. Si ses habitants savent combien la terre a été retournée par les explosions, ils ne se doutent pas des dangers invisibles que constituent les obus toujours enfouis. Un couple d'octogénaires y cultive son terrain depuis près de 30 ans, notamment en déterrant des truffes. À l'automne, il accueille des touristes friands de ces pépites noires. Or, les champignons rappellent, Régis Courtecuisse, mycologue et professeur à la Faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques de Lille, font preuve d'une capacité d'accumulation de métaux lourds bien supérieure à celle des autres végétaux. Une autre étude, non publiée, dont on ne peut généraliser les conclusions du fait d'échantillons trop limités, montre que, sur 32 truffes, 34% présentent une teneur en plomb supérieure à la norme européenne. Las, le couple n'a pas fait d'analyse particulière pour évaluer la toxicité de son sol. Les truffes peuvent donc être exposées à une teneur anormale en métaux lourds sans que les consommateurs ne le sachent. Plus qu'au couple, la négligence pourrait être imputée à l'absence de communication des pouvoirs publics autour de ce potentiel problème sanitaire. Le Nord-Pas-de-Calais a été particulièrement touché par la guerre. Des millions d'obus y sont abattus en 4 ans, dont 5 à 25% n'ont pas explosé. La zone rouge a été nettoyée pour la reconquête agricole, explique Yann Audic de la Commission d'histoire et d'archéologie du Pas-de-Calais. Car l'urgence était surtout économique. Le désobusage est confié aux armées anglaises et américaines. Mais les